In 500 meters, go straight, and then go straight.
Entre les pages. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre les pages, votre émission qui parle du monde des livres en Anjou. Aujourd'hui, je vous propose une émission un peu particulière. Aller à la rencontre de trois auteurs bien différents. Avec les amis des émissions La Case de Seb et Imaginaire, nous sommes partis en expédition au festival Cultissime qui s'est tenu fin septembre à Angers. Et nous avons récolté une brassée d'interviews dont nous avons bien l'intention de vous faire profiter. Aujourd'hui, je vous propose une salve de trois voix. Et vous allez l'entendre, ces auteurs qui ont accepté de faire face à nos micros sont souvent émouvants dans la manière dont ils s'expriment, sans filtre, en toute sincérité. À commencer par le premier d'entre eux, Douglas Kennedy. Malgré des conditions pour le moins précaires, un studio en plein air battu par les vents, dans le froid, parasité par le bruit des festivaliers, il s'est livré simplement. Et je peux vous dire que cette personnalité de la littérature mondiale qui m'a accordé sa confiance, eh bien je m'en souviendrai longtemps. À vous, Douglas Kennedy.
Bonjour Douglas Kennedy.
Bonjour Luc.
Je suis ravi de vous rencontrer. Ailleurs chez moi, votre dernier livre, ce n'est pas un roman. Alors, première question, pourquoi ce livre aujourd'hui ?
Honnêtement, j'ai décidé de faire face à mon pays de manière de non-fiction. Les deux derniers romans que j'ai écrits sont politiquement très engagés. En fait, Les hommes en peur de la lumière, le sujet c'est l'avortement, qui est franchement un sujet immense maintenant aux États-Unis. Et c'est ainsi que nous vivons. C'est un roman d'anticipation qu'on... J'écris un monde en 21 ans où il n'y a pas les États-Unis, il y a deux pays. Un qui est théocrate et très chrétien, l'autre progressiste mais sous surveillance. Un monde sans liberté. Aussi, en fait, malheureusement, j'aurai 70 ans dans 3 mois. Et je pense comment ça arriver. Et aussi, j'ai pensé tout le temps, c'est le moment de faire face à mon pays. Mais aussi de manière... je pense que le style de ce livre, c'est, j'espère, très original. J'ai choisi 7 thèmes de la vie américaine. C'est un mélange de l'histoire personnelle, une vraie histoire du pays, des observations socio-culturelles. Mais aussi, c'est un road trip. Je voyage beaucoup dans ce roman. Et le sujet, c'est franchement notre rapport aux États-Unis avec l'argent. Et pourquoi l'argent est notre religion civile. Notre rapport avec Dieu. Et pourquoi le pays est si religieux. Et beaucoup d'entre nous pensent qu'on est le pays préféré de Dieu. Ça, c'est, je vais dire... pas mon point de vue. Au contraire. Mais il y a un chapitre aussi du jazz, qui est une de mes passions préférées et un sujet qui est très proche de moi. Et pourquoi le jazz est la vraie langue américaine. Et pourquoi le jazz, franchement, métaphoriquement, est un symbole du fait que aux États-Unis, on adore l'improvisation, des choses comme ça. Donc, je pense qu'on peut lire Ailleurs chez moi comme un roman, parce que beaucoup d'histoires entourent des pages, comme d'hab chez moi.
Oui.
En même temps, on va apprendre beaucoup en même temps.
Est-ce que malgré tout, on peut parler d'autobiographie?
Il y a un aspect de ça. J'ai écrit une mémoire philosophique il y a 10 ans qui s'appelle « Toutes ces grandes questions sans réponse » où j'ai posé cette question philosophique et j'ai utilisé beaucoup de choses chez moi. Dans mes romans, je n'ai jamais écrit un roman à clé et comme j'ai dit beaucoup de temps, je déteste l'autofiction. Je trouve l'autofiction paresseux. Et c'est toujours la revanche. C'est mauvais goût pour moi, l'autofiction. Mais comme tous les écrivains, j'utilise partout. Donc, j'ai utilisé certaines choses de ma vie ici, surtout ma vie familiale, mes deux parents, un mariage très classique et très désastreux aussi. Mais j'utilise ce mariage pour discuter franchement la société américaine après la Deuxième Guerre mondiale et avant ça, pour discuter des rôles sexuels à l'époque aussi et le début du féminisme, beaucoup de choses. Pour moi, quand j'utilise des aspects de moi-même, c'est pour illustrer un point historique, philosophique, et pas pour dire « voici ma vie ». Honnêtement, en fait, comme tout le monde, j'ai fait face à des choses difficiles et tragiques. Je pense fréquemment j'ai une vie extraordinaire. Je n'ai pas de regrets. Je ne regrette rien.
Le premier chapitre, c'est un serment d'allégeance à l'East Village. Et les deux premiers chapitres, c'est quand même une déclaration d'amour à New York.
Ah oui, tout à fait, oui, mais c'est ma ville natale et clairement, quand on est d'un certain âge, on a une nostalgie pour quelque chose, pour beaucoup de choses qui ont disparu. Quand je parle avec des Parisiennes, le Paris des années 70, même si 80, quand tout était abordable, quand si on enseignait à Paris 4, on peut acheter un appart. Des choses comme ça. Ça disparaît complètement. C'est la même chose à New York. J'ai grandi, je suis né le 1er janvier 55. J'ai grandi dans un appart de 65 mètres carrés. On était 3, 4. Quand, en fait, le troisième fils est arrivé, mes parents ont décidé de déménager. On a hérité la location de mes grands-parents. Mais c'était un New York de la classe moyenne. Ça, c'était ma ville. Même si j'ai gagné une place dans, en fait, c'était école, collège et lycée, tout ensemble.
Et c'était rude comme école.
Oui, et c'était franchement, en fait, c'est en fait l'école, collège, lycée le plus vieux aux États-Unis. C'était fondé par des Hollandais quand New York était la nouvelle Amsterdam. C'est aussi hyper prestigieux, très entelo, pas une institution agréable, mais mon Dieu, j'étais bien éduqué. Mais ça, c'était aussi intéressant parce que j'étais à côté du fils de John Kennedy. J'étais à côté du fils de Leonard Bernstein, le fils des plutocrates de East Side, en fait. Et je suis un homme de la classe moyenne. Donc, ça, c'était un point de vue aussi. C'était New York très, très, très mixte, sale, une ville assez dangereuse, magnifique en même temps, vraiment magnifique en même temps. Parce que, franchement, ce n'est pas une ville stérile. Oui.
Dans ce livre, vous faites un panoramique sur l'Amérique. Vous regardez l'Amérique. Et moi, je me demande si dans ce livre, la phrase la plus importante... Ce n'est pas chaque fois que j'écoute du jazz au Vanguard, je deviens quelque chose qui d'habitude ne me ressemble pas, un Américain fier de l'être. Ça, c'est à la page 200. J'ai le sentiment que vous regardez toute la complexité de l'Amérique et que vous dites, mais c'est finalement mon pays. Je ne peux pas le renier, ce pays-là.
Non, voilà. Écoutez... Je vis une vie un peu différente que les autres. Je vis à Paris une moitié de l'année. Je parle français. J'ai une appart à Berlin. Ich spreche Deutsch. Auch das ist meine dritte Sprache. J'ai vécu 23 ans à Londres et avant ça 11 ans à Dublin. J'ai un passeport irlandais aussi qui est très utile pendant l'époque de Trump. On n'en a aucune idée où est la sortie. J'espère que ce n'est pas nécessaire de poser cette question. Mais la vérité est je reste très américaine. Très américaine. Et ça, c'est ma peau. Au début, je suis New-Yorkais et puis américaine. New York et moi, c'est complexe, compliqué. Je n'ai jamais eu le succès littéraire que, en fait, j'ai en France, à New York. J'adore la ville, mais aussi, je n'aime pas le système littéraire là-bas. Je n'aime pas le fait que, franchement, il faut d'être très sociable, des fêtes. Le fait que tout le monde là-bas est très ambitieux. Est-ce que vous êtes important? Ça, c'est la question. Sous le vernis, tout le temps dans une fête, etc., etc. New York, pour moi, c'est le club du jazz. C'est des cinémas de l'art et de l'essai. C'est des musées extraordinaires. Franchement, dans le passé, le fait que c'était ouvert 24 heures sur 24, pas maintenant, depuis Covid, moins et moins. New York est devenu stérile aussi pendant l'époque de Giuliani, qui est maintenant l'autre gangster avec Trump, mais qui était un peu comme un jésuite quand il était maire. Il a franchement éliminé beaucoup de choses criminelles, mais aussi une certaine âme de la ville. Et pendant l'époque de Bloomberg, qui était franchement indépendant. Mais Bloomberg, c'est un homme d'affaires, c'est un milliardaire. Et il a dérégalisé beaucoup de choses. Et de plus en plus, en fait, tous les petits commerçants ont disparu. C'est devenu une ville de la mondialisation. Depuis l'an de septembre, de plus en plus, New York était toujours une pays dans un pays.
Et Manhattan dans New York, un pays dans un pays dans un pays. Pays.
Tout à fait, tout à fait. Ça reste une ville remarquable. Et c'est chez moi. En même temps, le fait que j'ai vécu une moitié de ma vie en Europe, plus maintenant, et j'ai un pied... Maintenant, je vis entre le Maine, dans le nord-est des États-Unis, la Nouvelle-Angleterre. Et ça, c'est sublime. Ça, c'est ma version américaine, en fait. Franchement, en fait, où je suis très à l'aise. J'ai un appart à Paris, j'ai un appart à Berlin, j'ai une fille à Londres, un photographe, une fille à New York, dramaturge. Je ne vais pas me plaindre.
Alors, quand on lit les deux derniers livres, j'ai l'impression qu'il y a un changement de point de vue. Dans « Et c'est ainsi que nous vivrons », j'ai l'impression que vous nous décrivez une Amérique coupée en deux. Et des deux côtés, c'est ni bon ni mauvais.
Non, franchement, les deux sont mauvais.
Les deux, voilà.
Look, les deux sont
voilà.
mauvais.
Voilà, je n'osais pas le dire,
c'est,
mais
c'est,
les deux.
C'est mon. Oui, il y a franchement un système, une théocratie chrétienne. Mm. Et puis, il y a en fait une nouvelle république laïque, socialement progressiste, mais où il y avait une surveillance totale. Il n'a pas une vie privée et aussi il n'a pas en fait liberté d'expression. Donc c'est totalitaire light. clairement en fait oui. Est-ce que c'est possible que ça va arriver? Tout à fait.
Oui, j'ai eu le sentiment que c'était possible quand vous l'avez écrit, que vous imaginiez que c'était impossible de l'Amérique.
Mais ailleurs chez moi, je pense que vous avez raison, il y a un amour pour mon pays, partout, pour les espaces. J'adore voyager aux États-Unis. Par exemple, en 2021 et 2022, j'ai fait, en plein confinement, 20 récits de voyage pour le journal de dimanche. Oui, l'Amérique sous Covid. Maintenant, j'écris pour la Tribune de dimanche. Il y avait un changement du journal de dimanche que j'ai pensé, OK, ce n'est pas pour moi, au revoir. Je suis très centriste politiquement. Mais le truc, même si j'étais dans l'Amarillo, à Amarillo, dans le Texas, qui est franchement l'autre côté de la Lune pour quelqu'un de l'Est, j'ai rencontré des artistes. Même si dans le Kansas, c'est dans le livre aussi, qui est peut-être l'État le plus conservateur aux États-Unis, j'ai rencontré aussi en fait, des gens progressistes avec un point de vue global. Ce n'est pas... J'ai une frustration avec un point de vue européen des clichés tout temps que c'est simplement en fait les États bleus progressistes, les États rouges chrétiennes et stupides. Il y a beaucoup de choses stupides chez nous aux États-Unis, en fait, et aussi beaucoup de choses extraordinaires. Et donc, j'espère dans ailleurs chez moi, on va découvrir en fait un point de vue très nuancé aux États-Unis. Avec un grand, en fait, l'amour pour le pays. Mais aussi, je suis quelqu'un qui critique mon pays tout le temps.
Moi, j'ai l'impression que vous vous réconciliez avec votre pays. Et ce que vous décrivez, ce n'est pas quand vous êtes dans les États du centre, vous racontez cette période du Covid, où vous rencontrez des gens qui sont tatoués, qui n'ont pas de masque. Mais il n'y a pas de mépris, il n'y a pas de condescendance.
Non, pas
ce sont des Américains.
Oui, quand j'ai écrit, oh mon Dieu, c'était presque il y a 27 ans, au Pays de Dieu, où c'était mon deuxième livre, et c'est un récit de voyage quand j'étais dans une voiture et j'ai traversé la centre de la Bible.
Oui, c'est Bible
dans
le Belt.
Sud, et j'étais parmi des néo-chrétiennes tout le temps, des évangélistes. Des choses absurdes, clairement, et des choses qui m'ont bouleversé aussi. Je pense que, honnêtement, l'empathie est essentielle pour un écrivain. Je n'aime pas des gens pessimistes ou surtout cyniques tout le temps, parce que ça, c'est paresseux. Il faut essayer de comprendre des autres, surtout des gens avec un point de vue complètement différent que soi-même. Et le fait que, par exemple, dans le livre, je suis à Amarillo, et il y avait un mec avec une arme. C'était un resto de barbecue, naturellement. J'étais là-bas en noir comme d'hab, OK, avec mon calepin, un stylo de plume et un grand air dans le Texas, un exemplaire de New York Times. Immédiatement. Un homme de côte l'Est, élite, oui, éduqué, etc. Et ce mec, il a un T-shirt. Et je ne vais pas répéter, en fait, le slogan, c'est dans le livre, parce que oui, on est poli. Mais c'était essentiellement, si vous avez voté pour Biden, en fait, il faut que vous ayez le sexe avec soi-même. Quelque chose comme ça. OK, c'était plus cool. Et aussi, c'est grammaticalement incorrect. Aussi, en anglais.
Oui, il y a une faute.
Il y a une faute. Il a manqué une préposition. Mm. En même temps, ce mec de mon âge, peut-être un peu plus âgé, j'ai pensé immédiatement, peut-être il était au Vietnam. Ça, c'était ma génération. Aussi, il n'a jamais vécu en dehors du Texas, peut-être il connaît Oklahoma, jamais en dehors des États-Unis, peut-être une fois au Mexique pour des vacances, Acapulco. Comme Elvis. Il y avait un film avec Elvis, l'action sur lui à l'Acapulco. Désolé, ça c'est une digression. En même temps, je regarde ce mec et la colère envers de moi. Mais ce n'est pas comme voici un voyou.
Mm. Mm.
Ça c'est OK. Pourquoi il est si provoqué par moi? Je représente quoi dans la société? Et clairement, ça c'était un point de vue du Parti républicain, même si, en fait, la plupart les politiciens républicains ont en fait des éducations extraordinaires à des universités d'Ivy League, etc., etc. Ils ont toujours parlé du fait que les deux côtes, c'est des snobs, c'est des progressistes, homosexuels, des gens qui parlent français, etc. Pas des vrais
Américains.
Vrais Américains. L'Amérique profonde. Ça, c'est la guerre culturelle maintenant. Donc, un moment comme ça, ce n'est pas comme, surtout parce que le mec a une arme qui est légale dans les US, oui. Je n'ai pas dit, oh, monsieur, votre t-shirt, vous manquez une préposition. Je peux le corriger avec une Sharpie ou quelque chose. Non. Mais pour moi, en fait, oui, l'empathie, c'est très important. Et aussi avec une certaine clarté, une certaine lucidité en même temps.
Il me semble que c'est ce qui traverse votre livre, cette notion d'empathie, d'attention à l'autre, d'écoute, et pas de mépris, pas de cynisme, pas de condescendance. Je vous remercie, Douglas Kennedy, d'avoir répondu à mes questions. J'ai été enchanté de vous rencontrer, et puis je vous souhaite un bon festival.
Et merci pour une interview excellente.
Merci.
Vraiment, merci.
D'écouter Senzile qui a interprété dit Laden. Vous êtes bien sur Radio G sur la fréquence 101.5 et vous écoutez Entre les pages, l'émission qui parle du monde des livres en Anjou. Après Douglas Kennedy, allons à la rencontre de Pierre Bordage. C'est Romuald Herbreto, membre de l'association et de l'émission Imaginaire, spécialiste des littératures de l'imaginaire, qui a conduit cette interview et je l'en remercie. Pierre Bordage, en toute humilité, c'est maintenant.
Pierre Bordage, bonjour et merci d'avoir accepté cet entretien.
Merci, mais bonjour à vous, je suis très heureux d'être là.
Vous êtes l'écrivain français de l'imaginaire le plus connu sans doute, enfant de Vendée, amoureux de la nature. Vous avez débuté votre carrière d'écrivain avec Roald le Conquérant.
Lui aux pièces de presse de la cité au départ, dans l'édition de Gérard de Villiers qui s'appelait Vaugirard puis Vauvenargues.
Et puis très vite, vous rencontrez un succès inédit avec Les Guerriers du Silence, en tout cas avec le premier tome en 93, et un succès inédit pour un écrivain français de science-fiction à l'époque. Dès lors, vous n'avez arrêté d'écrire, on en est à entre 50 et 70 romans.
70,
oui. le temps passe vite, et en tout cas vous écrivez vite, dont des romans jeunesse, des nouvelles. Vous avez aussi co-scénarisé deux films. Vous avez, alors c'était Dante 01 et puis Eden Log, avec Lambert Wilson et puis Clovis Cornillac.
Clovis Cornillac pour Eden Log, mais deux bides, hein, donc c'est... Je suis un peu tricard comme scénariste maintenant.
Moi, j'avais vu Eden Log, j'avais bien aimé. Et puis, président des Utopiales pendant 10 ou 11 ans, quelque chose comme
ça. 10 ans.
Et vous jouez du banjo ?
5 cordes, oui. Banjo américain.
Pour commencer, j'aurais aimé savoir quelle est votre définition de ce que c'est qu'une œuvre culte.
Une œuvre culte, c'est une œuvre qui marque à vie. C'est une œuvre dont vous vous souvenez tout le temps, qui vous inspire. Et en ce qui me concerne, c'est Dune. Parce que quand j'ai lu Dune, j'ai eu envie de faire ce que faisait ce monsieur, Frank Herbert. J'ai lu en 73, je pense. Il était paru en France en 70, dans la collection Ailleurs et Demain, je pense. Et j'ai lu ça et j'étais scotché. Bon, et puis je pourrais mettre les chroniques martiennes aussi, parce que ça m'a donné... Mais Dune est vraiment le bouquin qui m'a donné envie d'écrire du space opéra. Et de travailler comme Herbert en donnant une sorte de dimension verticale par ces textes de début de chapitre, des extraits de la princesse Irulan ou d'autres personnages qui donnent une profondeur à l'œuvre parce que ça fait une explication transversale. Et j'ai trouvé ce procédé génial et j'ai beaucoup appliqué ensuite.
Mais est-ce qu'une œuvre culte, c'est forcément une œuvre littéraire ?
Non, je pense que ça peut être un film, je pense que ça peut être une statue, un tableau, je sais pas, enfin, moi c'est le littéraire parce que j'ai découvert la science-fiction à la première année de fac à Nantes, un cours de littérature comparée, et quand j'ai lu Chronique martienne, Demain les chiens, Chamblot de Catherine du Cidemour, j'étais scotché, je me suis dit on peut faire ça, on peut écrire ça, on peut... Pour continuer à faire rêver comme quand j'étais enfant et que je disais des mythologies où je rêvais j'étais transporté dans un autre univers. Et la science-fiction m'a fait exactement le même effet. C'était un effet toboggan qui me projetait dans un autre monde. Et ça me plaisait énormément. Quoi. Et que Dune, ça a donné le coup de grâce. Dune, ça a été vraiment la révélation. On peut faire des choses aussi ambitieuses et aussi passionnantes que ça. Quoi.
Et est-ce qu'on a déjà dit, vous avez déjà entendu des lecteurs disent une de vos œuvres, c'est une œuvre culte, une œuvre de Pierre Bordage, une œuvre culte pour moi.
Oui, j'ai entendu ça. J'ai entendu ça maintenant. Je ne sais pas s'ils disent ça pour me faire plaisir ou...
Et c'était sur quelle œuvre ?
Ou quelles œuvres ? Les Guerriers du silence, j'ai eu beaucoup. Wang, quelquefois. Absalom pour certains. Les Fables de l'impur pour d'autres. C'est un peu varié, mais c'est les gars du silence qui est revenu le plus souvent.
Il y a quelques thèmes qu'on retrouve systématiquement ou quasi systématiquement. Le premier que je vois quand on regarde votre œuvre en entier, c'est le fait d'aborder la spiritualité. Je ne pense pas qu'il y ait une seule de vos œuvres qui n'en parle pas. Qu'est-ce qui fait que la fiction, ça vous permet d'aborder spécifiquement la spiritualité ?
Parce que je pense que le discours est envahissant. Il est souvent maladroit et souvent dogmatique, tandis que la fiction est changeante. Ça permet d'avoir de poser des choses beaucoup plus souples, qui respectent la liberté de chacun. Quoi. Ce sont des personnages qui s'expriment et ce sont des facettes de l'être humain. Chaque personnage a des facettes. Et tout ça, ce sont des facettes de l'être humain. Donc quand c'est le personnage qui incarne d'une façon ou d'une autre la voie spirituelle, il reste humain malgré tout. Et donc ça éloigne des dogmatismes et des commandements. C'est jamais un commandement, je pense, un chemin spirituel. Quoi. C'est un chemin vers la liberté intérieure. Je pense qu'autant la religion enferme, autant la spiritualité libre libère.
Donc c'est-à-dire plus conte philosophique que Bible, clairement.
Oui, oui, oui. De toute façon, même le Christ employait des métaphores pour son enseignement. Hein. Les paraboles de l'enfant prodigue, les paraboles des talents, plein de paraboles. Parce que la petite histoire est beaucoup plus parlante qu'un long discours. C'est la force de la fiction, c'est ça, c'est de raccourcir les choses, de donner plus de profondeur aux choses.
Il y a quelque chose aussi dans vos œuvres. Il y a des moments, des scènes qui sont d'une extrême violence, d'une extrême cruauté. Et puis, on peut arriver vers des scènes ou des relations entre personnages qui sont extrêmement douces, extrêmement apaisées. Est-ce que c'est conscient ?
Non, il y a une grande part d'inconscient. Je pense que c'est une exploration de diverses facettes humaines, sans tabou. Je ne rejette pas les aspects sombres de l'être. Au contraire, l'écriture m'amène à les regarder en face et à essayer de comprendre ce qui se passe. Quoi. L'écriture, c'est un truc, c'est un tamis très fin qui filtre et qui vous envoie dans des endroits que vous n'avez pas envie de fréquenter, parce que quelque part ils sont gênants, quelque part ils vous disent quelque chose de vous-même. Et bon, j'essaie de faire en sorte de n'avoir aucun tabou sur ce que vivent mes personnages. Donc c'est vrai qu'il y a des scènes très dures. Et par exemple dans la trilogie des prophéties, il y a des scènes extrêmement dures. Mais il y a des scènes aussi de tendresse. Tous les aspects de l'être humain sont pas à prendre pour moi. C'est apprendre à me connaître aussi, mais dans mes aspects sombres et tout. Tout à l'heure, j'ai dit à une conférence quelle était ma quête. Et j'ai dit, ma quête, c'est moi, finalement. Ça passe qu'à travers moi. Ma quête, c'est devenir moi, devenir le moi de mieux en mieux moi. Et je pense que plus on devient moi, plus on devient les autres aussi, quoi.
Vous jugez pas vos personnages ?
Non, je ne suis pas là pour les juger, je suis là pour les faire vivre. Donc, faire vivre dans toutes leurs dimensions. Si j'occultais certaines de leurs dimensions, ça veut dire que je tricherais avec eux, quoi. Donc ce qui me donne les personnages, parce que je les écoute beaucoup, enfin je les écoute, je suis à leur service. Quelque part, moi je suis la personne qui suit les impulsions de ces personnages. Et si je camouflais certains aspects de leur personnalité, je tricherais, je mentirais. Donc ce ne serait pas leur rendre hommage.
Dans Absalon, on a vraiment un personnage qui est un tueur de femmes, qui est terrible. Et pourtant, il y a un chemin de rédemption.
Oui, Absalon, c'est lui qui m'a emmené vers son chemin de rédemption. Absalon est un tueur psychopathe qui a la manie, une force herculéenne et la manie d'écraser le crâne de certaines femmes, les jeter après. Donc c'est un personnage odieux hein, au départ. Odieux, mais je ne sais pas si vous avez lu Les souris et les hommes de Steinbeck. Il y a ce genre de personnage qui casse ses souris et qui les massacre sans jamais le vouloir. Et son copain est quelqu'un qui comprend son problème. Et il sait qu'il ne doit jamais le laisser avec une femme. Il a besoin un peu dans ce registre-là. Quoi. C'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de faire ce qu'il fait. Et je me suis dit, le personnage est odieux, quand j'ai commencé à accoucher du personnage. Et puis je le suis. Et je l'ai suivi, et c'est lui qui m'a emmené sa rédemption. Quoi.
Et que les textes soient longs ou courts, est-ce qu'on peut dire que votre écriture, c'est une écriture de la divagation ?
Oui, il y a une forme de voyage permanent. C'est le voyage initiatique cher à tout le monde. C'est des anecdotes sur la route. Quoi. Et puis j'aime ça parce que ça permet de voir des choses sur le bas-côté. Ça permet de voir des paysages, ça permet de voir d'autres gens.
Depuis au moins 1993 que vous écrivez la science-fiction, la technologie a énormément évolué. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire ou est-ce que c'est quelque chose qui, au contraire, vous contraint un peu ?
Ben, c'est les deux. Ça m'inspire parce que je vois qu'il y a des progrès technologiques que j'essaie de pousser plus loin. Je dis ça et puis je pousse un peu plus loin. Ça m'oblige à réfléchir sur les évolutions possibles de la technologie. Ça, c'est pas mal.
Est-ce qu'il y a d'autres œuvres où vous êtes content d'avoir été visionnaire sur certains aspects ?
Non, si je suis visionnaire, ça veut dire que c'est des choses qui se réalisent et comme ce sont des dystopies, c'est pas très sympathique, quoi. Donc je suis pas très content. Est-ce que j'ai servi à alerter ? Est-ce que si je suis un donneur d'alerte ou bien un sonneur d'alerte ou bien quelqu'un qui acclimate les gens au pire ? Et ça, c'est une question que je me pose. Quelle est l'influence d'un auteur sur son environnement, sur son public, sur le public en général, et dans la vie dans la vie de la société. Mmh. Est-ce que ça a de l'importance ou pas? Est-ce que le texte a de l'importance? Est-ce que le mot a de l'importance? Je pense que oui. Donc,
Et justement, il y a peut-être une nouvelle étape dans la science-fiction aujourd'hui, c'est non pas parler que de la catastrophe, mais parler aussi de la solution, comme on voit par exemple avec le mystère du futur. Est-ce que c'est des choses que vous abordez ou que vous allez aborder dans vos prochains textes?
Il y a une américaine qui sait très bien, c'est Becky Chambers. Non, je pars pas de ce principe-là, je reste dans ma veine. J'aime bien qu'il y ait du noir et de la lumière. Mais parfois la lumière est forte et des fois elle n'est pas très forte. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, dans l'ombre il se passe des choses intéressantes. Hors de la lumière.
Vous vous êtes essayé à d'autres styles que la science-fiction et que la fantaisie ou le fantastique. Ça vous suffisait plus, les mondes de l'imaginaire?
Non, mais j'ai eu des envies. J'ai 3 romans contemporains. Le jour où la guerre s'arrêta, Mort d'un clown, et puis Tout sur le zéro, qui est un jeu, la liste de l'addiction au jeu de casino, et la roulette en particulier. Et là, j'ai essayé des styles littéraires totalement différents, parce que dans Tout sur le zéro, je fais des chapitres-phrases. C'est-à-dire qu'un chapitre, c'est une phrase. Quand vous trouvez un point, c'est que vous avez fini le chapitre. C'était une sorte de défi, mais... C'est intéressant, c'est parce que je suis arrivé un jour du casino où j'ai joué. J'ai perdu une somme assez importante. J'étais en colère contre moi. Et je dis, comment exorciser cette colère? Ben, je vais l'écrire, quoi. Et c'est parti. Et je mettais que des virgules. Moi, j'étais essoufflé à l'intérieur, quoi. Et c'était pour traduire l'espèce d'allaitement du joueur et les montagnes russes qu'il ressent lorsqu'il joue. C'est-à-dire le gain, la perte, la gain, la perte. Mais on passe sans arrêt de l'excitation à la dépression. Et je voulais traduire ça comme ça. Et j'ai fait un chapitre, en rentrant, hein, un chapitre, 6-7 pages. Je l'ai envoyé à Marion Mazurik du Diable Vauvert. J'ai dit, qu'est-ce que t'en penses? J'ai répondu ça. Il me dit, t'arrêtes tout et tu fais ça en priorité. Donc là, il est né Tout sur le zéro, qui n'a pas eu de succès malheureusement.
Sur Métro 2033, ouais. Comment vous êtes arrivé à rentrer dans l'univers de Lukovsky?
Ben, c'est simple, je ne suis pas rentré du tout. C'est-à-dire, j'ai lu Dmitri Lukovsky, parce que c'est lui qui m'a proposé de faire Métro 33 pour Paris. J'ai rencontré Saint-Malo, des étonnants voyageurs, et il me dit, j'ouvre mon univers aux auteurs européens, et j'aimerais que ce soit toi qui fasses pour la France. D'accord, mais je vais lire tes livres et puis je te dirai, parce que je ne sais pas trop ce que ça va donner. Donc je lis ces livres et j'avais plein d'idées. Donc je dis, je ne ferai pas ça comme ça, je ne ferai pas ça comme ça, je ne ferai pas ça comme ça. Des contre-idées, en fait. Donc j'ai dit, ok, j'ai eu tes livres, ça m'a inspiré pas mal de choses. Et il me dit, je t'oblige qu'à une chose, c'est de partir de mon point de départ, c'est-à-dire... la surface de la Terre est irrespirable pour cause de bombardement atomique. Et donc, les gens sont réfugiés dans le métro pour survivre. Voilà. Et il m'a laissé totalement carte blanche, donc je reprends aucun de ses personnages. Je n'ai pas du tout sa temporalité. Lui, il fait ça sur 5 ans à peu près, 4 ans et demi. Moi, je fais ça sur 500 ans, quoi. Parce que ce qui m'intéressait, c'était de voir l'évolution possible d'une humanité confinée en permanence. D'ailleurs, j'ai écrit en partie pendant les deux confinements, donc c'était dans le propos. Et là, je voulais aussi illustrer le temps par les mutations, etc. quoi. Donc il fallait un assez long temps pour que les mutations apparaissent. Mais je me suis éclaté à faire cette série.
Vous avez encore plein de projets à venir. Ouais. Vous pouvez en parler un petit peu?
Ouais. Mais je vais faire un roman en opposition à Pérec. Georges Perec, qui s'appelle L'Apparition. Et donc l'apparition d'une nouvelle lettre dans la langue. Ce qu'elle change, ce qu'elle... Et dans toutes les langues du monde, hein. Donc il faut que ce soit un signe assez particulier.
Radio G a un budget illimité, hein, comme on le sait, donc on va vous faire des propositions. Imaginaire et Radio G et Entre les Pages vous offraient une planète, quelle serait la planète que vous choisiriez?
Une planète, je prendrais la Terre.
La Terre.
Mmh. Mais c'est vrai que Radio G serait plein de pognon, parce que le coût total de la Terre, ça doit être quelque chose.
Sans limite.
Si vous étiez un personnage culte, qui seriez-vous ?
J'ai failli lire le Christ.
Pourquoi pas ?
On l'a jamais eu comme réponse.
Ouais, bah, non, je vais donner celle-là.
Ça, c'est assez culte, le Christ.
Ça, c'est culte, ouais. Surtout sa fin.
Et dernière proposition, si vous étiez un autre auteur que Pierre Bordage, vous seriez qui ?
Je serais Dan Simmons pour le côté brillant de l'écriture. Le côté définitif de l'écriture, c'est-à-dire quand j'ai abordé un genre, Dan Simmons, il semble nous dire, bah, vous ne pouvez plus passer derrière les gars. J'ai tout cramé l'herbe. C'est Attila, c'est l'Attila de la littérature. Mais j'aime pas son esprit américain d'extrême droite. Alors notre auteur, c'est Card, c'est pareil. J'ai un culte pour Card, mais Card, il est mormon, donc c'est un peu gênant. Ceci dit, ses bouquins sont tout sauf dogmatiques, alors que lui, il l'est énormément. Et si c'est vrai, c'est aussi l'extrême droite américaine. Mais Herbert aussi pour Dune, quoi. Et Herbert, en fait, Dune, on se trompe souvent sur Dune, parce que Dune, c'est un livre sur le pouvoir. Sur le pouvoir absolu. Quand Leto devient l'empereur dieu de Dune, c'est le pouvoir absolu et c'est une horreur, quoi.
Eh bien, merci Pierre Bordage pour cet entretien.
Merci à vous.
C'était Pierrick Menuau et son compère Gaëtan Nico qui ont interprété cette petite fantaisie musicale intitulée « Contrepoint du Midi » et vous êtes toujours sur Radio G. Après Douglas Kennedy, après Pierre Bordage, je vous propose d'aller à la rencontre de Mathias Malzieu. Et oui, rien moins que le chanteur de Dionysos, mais pour le festival cultissime, c'était l'auteur du roman « L'Extraordinarium ». Malgré une longue journée, après des rencontres avec le public, des dédicaces, la file était interminable et une lecture chantée, il a quand même accepté de nous rencontrer. Mais à ce discours, écoutons-le plutôt.
Le festival cultissime se continue, alors à un horaire qui n'était pas prévu pour moi. C'est les lois du genre, surtout quand il s'agit d'échanger avec Mathias Malzieu. Je ne sais pas aujourd'hui comment je dois parler de Mathias Malzieu, si c'est le chanteur ou l'auteur. Alors, à qui je parle aujourd'hui ?
C'est le même. C'est le même. J'aime bien l'idée de raconteur d'histoire. Après, que je plonge dans un bain révélateur de textes, de livres, de films ou de chansons, pour moi, c'est la même chose. C'est pas la même chose, c'est pas la même fabrication, mais c'est le même état d'esprit.
On échangeait avant de commencer cette interview sur la folie du groupe Dionysos. Et puis, il y a le délire de l'auteur Mathias Malzieu. C'est le même. Ça va puiser l'imagination au même endroit.
Ça va puiser exactement au même endroit, au niveau de la musculature de l'enfant intérieur. Après, par contre, ça ne se produit pas de la même manière. Je dirais que quand j'écris une chanson, c'est les muscles du 100 mètres. de la formule, du sprint, de l'évocation. Si je pars à la même vitesse sur un roman, j'explose. C'est un marathon, un roman. Même mes romans qui sont pas très longs, qui font 200 pages, c'est déjà un marathon. Appelons ça peut-être un semi-marathon, mais en tout cas, c'est déjà de la course de fond, alors que la chanson ou le poème, c'est du sprint. Et j'adore les deux, je mets pas de hiérarchie entre les deux, mais commencer une chanson comme un marathon rendrait la chanson trop molle, et partir comme sur une chanson pour un livre, ça manquerait de plat et de délier. Ça, on doit avoir des temps forts et des temps faibles, même sur une chanson. Mais alors sur le roman, ça s'étale encore beaucoup plus, et j'aime en fait le fait de passer de l'un à l'autre.
Effectivement, deux tempos, de temporalité, de temps, de durée. Mais il y a quand même, chez vous, cette bascule dans l'autre monde ou cette bascule ailleurs qui se passe d'un clic. Autant je la perçois dans la chanson, autant je me suis toujours interrogé sur comment elle s'amène dans l'écriture, puisque le temps est plus long. Dans la chanson, ça fonctionne, c'est un clic, c'est un twist. Dans le roman, c'est beaucoup plus long. Comment ça se construit, cette bascule-là ?
Déjà, vous avez raison, parce que même, par exemple, pour prendre le troisième médium, le cinéma, en fait, souvent, j'utilise les chansons pour raconter soit un voyage, soit un rêve. Donc, le clic dont vous parlez, il existe, vraiment, avec la chanson. La musique en elle-même amène à rêver ou à voyager. Elle donne la patine de l'atmosphère, plus encore. Alors que quand on n'est qu'avec le texte, eh bien, il faut faire la musique, il faut faire la déco, il faut faire le stylisme, il faut tout faire avec la plume. C'est plus long, en fait, à construire. Mais moi, toujours, en fait, il doit avoir une fonction narrative. C'est-à-dire que je fais très attention à ça. Quand on manipule des choses imaginaires, qu'on appelle, pour appeler ça, fantastique ou poésie ou émerveillement, peu importe, réalisme magique, on me dit des fois, en fait, il faut que ça renseigne sur le réel. Si c'est pour faire de la déco, d'avoir des jolies idées avec des monstres et des mondes bizarroïdes, juste la bizarrerie pour la bizarrerie, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Ça doit toujours être, en fait, le pendant, le kaléidoscope qui dit quelque chose du réel et qui dit, il doit dire mieux le réel comme une métaphore, en fait. Comme en poésie ou comme en humour, c'est presque la même mécanique d'ailleurs. C'est le fait de regarder le monde avec un pas de côté, avec un angle en biseauté, comme pour faire un petit tour de magie un peu amusant. Mais finalement, il y a un truc. Mais c'est pas grave qu'il y ait un truc. Le fait qu'il y ait un truc permet de raconter une histoire. Donc c'est toute cette jolie mécanique-là qui me passionne pour raconter des histoires dans les histoires des autres que je lis et dans celles que j'essaie d'écrire moi.
Pour ce qui me concerne, moi, la magie, elle a fonctionné. Alors, moi, j'ai connu le Mathias Malzieu, d'abord auteur de chansons, puis après, je l'ai découvert romancier. Et ce qui m'a toujours séduit, c'est cette poésie qui est rattachée au réel, enfin, qui est fortement inscrite dans le réel, mais effectivement, comme vous le dites, avec ce petit pas de côté qui, tout d'un coup, ouvre de nouvelles portes, de nouvelles possibilités. Ce qu'elle donne comme impression, cette écriture-là, cette forme-là, c'est une forme de facilité, de fluidité, d'aisance. J'imagine que ce n'est pas le cas. J'imagine que ça se triture beaucoup, ouais. Les mots.
Ça dépend. Il y a des moments, il y a des choses très importantes qui viennent en premier jet et où tu corriges trois mots, deux virgules, un saut de ligne sur 3-4 pages, comme ça. Et après, des fois, il y a un paragraphe, tu vas en faire 50 versions. J'exagère pas. Hein. Et des fois, pour finalement le couper ou le remplacer intégralement. Moi, j'ai besoin de beaucoup retravailler parce que justement, je suis toujours en train de travailler cet équilibre-là entre l'imaginaire et le réel. C'est-à-dire que si l'imaginaire prend trop le pas et qu'il y a le risque que ça déconnecte de l'émotion. Et si par contre je suis trop collé à mon sujet et qu'il n'a pas d'air, on perd l'émotion aussi dans ma façon de raconter des histoires. Donc c'est un mix très fin sur l'absolu du texte, sur justement, des fois je vais avoir tendance à faire trois métaphores pour dire la même chose. Il faut en choisir qu'une, même si j'aime bien les trois. C'est le fameux kill your darling. On enlève des choses qui nous plaisent. Quand on voit que c'est trop lent, que c'est pénible, ou que c'est mal dit, eh ben, on coupe, c'est facile. On a du recul sur soi-même, on arrive à à soigner son texte. Mais là où c'est le plus dur à soigner, c'est quand il y a plusieurs choses bien. Enfin, bien à notre humble niveau, en tout cas. Et que quand il n'y en a qu'une seule de bien plutôt que deux, c'est meilleur pour l'histoire.
Oui.
Ça, c'est le plus dur. C'est pour ça qu'il y a des éditeurs aussi, et qui sont précieux. Et que même si ça paraît être un travail de solitaire, et que ça en est quand même un, c'est aussi un travail d'équipe. Et alors, je ne sais pas, tous les auteurs vous diraient peut-être une autre réponse, et tant mieux, c'est pour ça que c'est joyeux, intéressant, mais il n'y a pas de règle absolue. Mais moi, effectivement, il y a toujours ce mix entre la dimension métaphorique, symbolique, ce qui existe, ce qui n'existe pas, ce qui est réaliste, ce qui est magique, et comment, en fait, ça s'organise pour pas que je me perde. Il faut que je me perde pour aller attraper des choses comme ça, mais après, il faut que je me retrouve. Il ne faut pas que j'ai l'autocomplaisance de me dire « je me suis perdu, mais c'est tellement cool, et c'est un geste, et c'est une licence poétique ». Ça doit, pour moi, la poésie, après je réussis plus ou moins, et selon le lecteur, etc. Mais moi, je dois être honnête avec moi-même quand je rends mon texte, je dois mettre comme un chat que j'aurais balancé en l'air, mais je dois retomber sur mes pattes. Comme pour une chanson, quand on fait un pont harmonique, et qu'on fait un changement de tonalité pour revenir sur le... En fait, ben, ça doit pas être une autre chanson qui arrive, quoi. On doit retomber sur ses pattes. On doit résoudre.
Cet après-midi, c'était une autre forme encore. C'était pas de la chanson. C'était de la... Vous accompagner, c'était de la lecture. Ça, c'est... Comment vous vivez cette expérience particulière, j'adore. L'expérience particulière de cet après-midi?
J'adore faire ça. Moi, ce que je fais là sur le dernier livre, l'Extraordinarium, où il y a tous mes livres, plus des nouvelles qui lient tous mes livres entre eux et entre elles, les histoires, ce que je fais, c'est que j'arrive avec un petit panier et je demande aux gens de tirer au sort. Ils tirent au sort, je lis un bout du livre et je chante la chanson qui va avec. Mais là, on m'a dit, t'as une demi-heure et t'as une chanson avec Olivia Ruiz et après, il y a la petite rencontre. Je dis, putain, une demi-heure, si je faisais l'air... Tu sais, ça s'installe, ça, il faut au moins trois quarts d'heure minimum. Donc je me suis dit, je vais me concentrer sur une histoire. Donc c'est l'histoire de mon après-greffe, quand j'ai écrit le livre Le journal d'un vampire en pyjama, et où ma maman biologique numéro 2, qui m'a permis donc de survivre, a découvert le code dans un livre en Allemagne et m'a envoyé une lettre, ce qui est complètement interdit en France, pour qu'on se rencontre. Donc j'ai raconté cette histoire que j'avais ajoutée à la version poche d'un livre qui s'appelle Le guerrier de porcelaine, et dont j'ai fait un podcast également. Donc j'ai raconté cette histoire, j'ai rythmé entre des moments où je savais à peu près ce que j'allais raconter, mais j'étais quand même en impro sans notes, et des moments où j'avais pris mon livre et où j'avais des petits post-it où je lisais avec des petites ellipses. Et puis j'ai chanté la chanson parce que j'avais fait une chanson comme un cadeau pour la donneuse de moelle osseuse que j'ai gravé sur un vinyle, un exemplaire. Donc j'ai joué cette chanson-là. Et ensuite, j'ai fait venir Olivia pour qu'on chante ensemble « Flamme à lunettes », qui est la chanson de Jack et les mécaniques du cœur, une des chansons principales, qui est projetée aussi au festival Cultissime.
Alors, on a vu plein de choses, mais est-ce que aujourd'hui, en ce moment, maintenant, il y a de l'écriture? Et c'est quoi comme écriture?
Alors oui, je suis au milieu de plein de choses, parce que moi, je repars en tournée avec Dionysos, et... Je suis en train de terminer le livre qui sort en mars et je suis déjà sur l'adaptation scénique qui va être un peu plus que de la lecture. Ça s'appelle « L'homme qui écoutait battre le cœur des chats ». Et c'est du point de vue de mes chats. Les chats mangent mes livres, pas ceux que j'écris, ceux de ma bibliothèque, et se font les griffes sur mes disques vinyles et du coup apprennent des chansons. Et ce qui permet d'avoir un véhicule de légèreté pour parler de choses un peu plus difficiles.
De ce que j'entends là, le spectacle est toujours présent dans l'écriture, enfin, il y a toujours, c'est toujours un mix.
Oui. C'est-à-dire que les gens peuvent croire parfois que c'est des concepts, alors qu'en fait, c'est moins intellectuel que ça. C'est plutôt de la curiosité et de la gourmandise. À dire que, le chat, quelle chanson? Il fait les griffes sur le vinyle, quelle chanson? Et quelle chanson qui, c'est pas juste parce que c'est une chanson que j'aime bien, une chanson qui ferait un écho à l'histoire. Donc après je fais ce j'ai envie de les enregistrer, d'en faire une version, je pourrais les jouer sur scène et je pourrais me mettre en chat, puis le deuxième chat, je pourrais en faire une marionnette, ça pourrait être cool pour le spectacle. En fait, je me plonge moi-même dans un labyrinthe que je fabrique et dans lequel, encore une fois, je me perds, mais dont le jeu, c'est de me retrouver. je dois fabriquer mon propre fil d'Ariane tout le temps. Sinon, ça devient trop un concept qui ne me parle qu'à moi-même.
Peut-être qu'on va essayer, je vais essayer de vous faire révéler un secret. Dans ces disques qui sont détruits par ces chats, vous avez dit c'est des chansons qui existent. S'il n'y en avait qu'une que vous deviez citer là, quelle chanson serait détruite?
The End des Doors va commencer le spectacle, parce qu'en fait le premier chat, celui que j'incarne, l'Inkipit du livre, c'est ils vont me piquer par amour la semaine prochaine, parce qu'il a eu une maladie grave qui fait que en France on nous a dit il faut le piquer, sauf qu'on a trouvé un traitement et qu'on l'a soigné. Et donc dans le spectacle, il va chanter The End. Je vais chanter The End avec un masque de chat l'année prochaine.
Je vous remercie Mathias Maldieu pour cet échange. Je vous souhaite un bon festival et peut-être à bientôt. Au revoir.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci.
J'espère que vous avez pris plaisir à écouter toutes ces voix. Cette forme, cette diversité a été rendue possible grâce au Festival Cultissime dont Radio G a été partenaire. Un grand merci tout particulier à Sybille Dapoigny, sa chargée de communication, qui a véritablement facilité notre travail. Angers a été mis à l'honneur pour cette émission, alors pour compenser quelques informations sur le territoire. Quand revient l'automne, revient le Festival de la BD engagée. C'est du 10 au 13 octobre prochain, à la salle Léopold Sédar Senghor, au Mets-sur-Èvre. Et puis le 18 octobre à 20h à Villevec, rencontre avec les éditions Les Blancs Volants et Frédéric Germano. Et le 19 octobre, cette fois à la bibliothèque de Rochefort-sur-Loire, toujours les éditions Les Blancs Volants, mais cette fois-ci accompagné de Christian Sapin. Au cours de l'émission, vous avez entendu Die Laden de Zenzile, extrait du magnifique album Berlin, et Pierrick Menuot et Gaëtan Nico qui ont joué Contrepoint du Midi, extrait de leur non moins magnifique album The Nearness. Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les Pages, sur le site de Radio G, à la date de l'émission. Le prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 23 octobre à 17h avec deux rencontres, Lou Darsan et Farik Seitch. Et ce sera une première pour Entre les Pages, la conversation avec traducteur. Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI et puis Pierre Benoît qui sera aux commandes de votre magazine Topette. Je vous souhaite une excellente soirée et maintenant...
In 500 meters, go straight and then go straight.
Générique.